Peter Hammond. Le docteur Hammond n'est pas un médecin médical, médecine, mais un docteur en, de par son éducation, son, ses études, les études qu'il a fait. Et avant de lui laisser la place, je voudrais encore vous raconter une courte histoire, une histoire vraie. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, il y avait des réunions comme celle-ci. Et alors, Dr. Hammond a pris une des réunions. Et parmi les enfants qui écoutaient, il y avait un petit garçon. Peut-être avez-vous entendu son nom des conférences précédentes. Le nom de ce garçon était Mika. Et quand Dr. Hammond a parlé, Mika a été touché par le message. Son cœur a été touché. Il a été touché par ce que Dr. Hammond a dit. Et pourtant, à ce moment-là, à cette époque-là, Mika était un garçon vilain. Et il était connu pour être un petit voyou. Mais durant cette réunion tenue par le docteur Hammond, il a été touché par le message et son cœur a changé. Et pour raccourcir l'histoire, son cœur à ce moment-là a complètement changé. Et après cela, il est tombé malade, mais malgré sa maladie, il a été un exemple pour nous. Et il a vécu une vie divine malgré la maladie. Et sa maladie a conduit à sa mort. Et à cause de cela, à cause de cette décision, il est aujourd'hui au ciel. À cause de la réunion du docteur Hammond, à cause de la décision qu'il a prise à ce moment-là. Cela lui a permis d'être au ciel aujourd'hui. Nous ne connaissons pas le futur. Peut-être y a-t-il un Mika encore parmi nous, mais que nous puissions avoir une oreille pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire, comme Dieu a parlé à Mika à cette époque, et que nous puissions entendre, écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et si tu écoutes, tu seras au bénéfice de ce que tu vas entendre ce matin. Docteur Hammond, merci d'être venu. Je vous laisse la place.
Thank you so very much. Good morning. I greet you in the wonderful
Merci
name
beaucoup.
Of our Lord and of our Savior Jesus Christ.
Merci beaucoup. Je vous salue, vous, tous les jeunes, au nom de notre Seigneur.
Cultivating
Jésus-Christ.
An attitude of gratitude.
Le thème de ma intervention est de cultiver une attitude de gratitude.
Frontline Fellowship has been a mission to restricted access areas, war zones, and the persecuted church for the last 42 years.
Depuis le début de mon ministère, j'ai travaillé parmi les zones de guerre.
Our vision is Africa for Christ.
Et j'ai œuvré pour que l'Afrique
se
tourne vers Christ.
We are a small group, but we have a big vision.
Nous avons un petit ministère, mais nous avons une grande vision.
God's will is made clear for us in the scriptures.
Le Seigneur nous ordonne
you
dans
want to know God's will? 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18 tells us.
Verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 16 et 18.
Be joyful always.
Il est dit, soyez toujours joyeux.
Pray continually.
Priez continuellement.
Give thanks in all circumstances.
Rendez grâce en toutes
This
circonstances.
Is God's will for you in Christ
car
Jesus.
Telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est donc la volonté de Dieu d'être reconnaissant.
I don't have English. I don't have English in the headphones. Thank you.
Dans Luc 17, nous lisons l'histoire à partir du verset 11. La lèpre est quelque chose de terrible, c'est une maladie terrible. Quand nous étions au Soudan, nous avions un dispensaire où nous prenions soin des lépreux. Et vous savez, c'est une maladie où la chair se dégrade Et alors, vous ne sentez plus rien. Et nous avions des rats dans le dispensaire. Et la nuit, les rats venaient, mangeaient les membres des célébreux et ne sentaient rien. Ils se levaient, le matin, ils se réveillaient et une partie de leurs membres avait disparu. La lèpre est une maladie physique, mais c'est une image du péché dans notre vie spirituelle. Et juste pour Et la solution que nous avons trouvée, c'était d'aller au centre de la SPA, de demander s'ils avaient des chats qui pensaient euthanasier, et alors on les a emmenés au Soudan. On les a emmenés avec nous dans l'avion, et alors ils ont éradiqué les rats. Et même les gens, les Soudanais, nous ont dit « Mais amenez-nous d'autres chats, parce que c'est la solution ». Et ils ont donc arrêté le fait que les rats mangeaient les membres des lépreux. Alors, si nous lisons dans Luc 17, l'histoire des 10 lépreux. Alors que Jésus se rendait à Jérusalem, il passa au milieu de la Samarie et de la Galilée. Alors qu'il rentrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent, qui se tenaient au loin. Donc ils sont restés au loin. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Alors les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et c'est ainsi qu'à mesure qu'ils avançaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint et glorifiait Dieu d'une voix forte. Il tomba la face contre terre à ses pieds en le remerciant. C'était un Samaritain. Alors Jésus répondit et dit, n'y avait-il pas 10 hommes lépreux purifiés? Où sont donc les 9 autres? N'en a-t-on trouvé aucun qui soit revenu rendre gloire à Dieu, à l'exception de cet étranger? Et Jésus lui dit alors, lève-toi. Va, ta foi t'a guéri. Alors, je me suis converti au Christ le 3 avril 1977. Le premier péché que Dieu m'a convaincu de confesser était le manque de gratitude. Avant ma conversion, je n'avais jamais remercié Dieu pour quoi que ce soit. J'ai grandi dans une famille païenne. Nous ne sommes jamais allés à l'église, même pas à Pâques ou à Noël. Nous n'avons jamais prié avant de manger à la maison. Et donc, quand j'ai entendu l'évangile pour la première fois à l'âge de 17 ans, et le pasteur Rick Smethy a prêché, et j'ai entendu, il a parlé du comte de von Zinzendorf, qui, lorsqu'il a été face à une peinture où Jésus était peint, Jésus le crucifié était peint, Et en dessous, il était écrit, voilà ce que j'ai fait pour toi, qu'as-tu fait pour moi? Et c'est ainsi que le comte von Zinzendorf a été convaincu et a donné son cœur au Seigneur. Et moi, j'étais assis dans ce cinéma que l'église locale avait loué pour ce pasteur. Et alors, quand j'ai entendu ce message, je me suis dit, mais moi non plus, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait non plus pour le Christ et je suis un pécheur qui mérite l'enfer. Et si Dieu m'avait envoyé en enfer à ce moment-là, ça aurait été une juste sentence pour ce que j'étais à ce moment-là. Et cette nuit-là, je m'étais converti au Seigneur. Et alors qu'on chantait ce chant, tel que je suis, et alors je me suis levé, je me suis agenouillé devant l'estrade et j'ai donné mon cœur au Seigneur à ce moment-là. Et le premier péché que j'ai confessé, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'étais jamais remercié pour quoi que ce soit. Et cette nuit-là, en 3 avril 1977, le Seigneur m'a appelé à devenir missionnaire. Nous vivons à une époque de droit. D'arrogance et de fierté. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Quelle est la lettre au milieu du mot orgueil en anglais? C'est I, c'est-à-dire I, ce qui veut dire moi. Donc l'orgueil, pendant de nombreuses années, a été reconnu comme un des 7 péchés capitaux. Et pourtant, en Afrique du Sud, et comme beaucoup de pays dans le monde, ce mois de juin est le mois des Pride, donc le mois des fiertés. Et en anglais, au milieu du mot Pride, c'est l'équivalent de je, moi. Quand est-ce que nous ferons le mois de l'humilité? Quoi de bon peut sortir de ce mois de fierté, d'orgueil? La Bible nous enseigne qu'un esprit orgueilleux précède la chute. Est-ce que nous ne pourrions pas avoir un mois qui célèbre Dieu plutôt qu'un mois qui célèbre le péché? Les gens aujourd'hui sont tellement égoïstes. Hier soir, nous avons entendu l'histoire de cette enveloppe que les gens marchaient dessus sans savoir qu'il y avait de l'argent. Et personne ne ramasse le papier qui traîne par terre. Les gens qui jettent des papiers, ils sont égoïstes. Personne ne pense aux conséquences de jeter des papiers, de polluer. Personne ne pense à la personne qui va devoir ramasser ce papier. Personne ne pense à ce papier, ces détritus qui vont être emmenés jusque dans la mer ou dans les rivières. Donc c'est une attitude complètement égoïste. Et voyez, encore plus égoïste, les gens qui vandalisent, qui font des graffitis, comme vous pouvez voir dans les villes, viennent et mettent toutes sortes de peintures sur les murs. Peut-être encore pire, le vandalisme. comme nous avons dans la province du Cap, vous avez le long de l'océan des endroits où on garde des bouées de sauvetage. Alors, des gens égoïstes, stupides, vandales, ils viennent et ils arrachent, ils emmènent la bouée ou la jettent. Et alors, le jour où quelqu'un en a besoin, parce qu'il est en train de se noyer, il n'y a plus de bouée. Ou pareil avec les extincteurs. Vous avez des extincteurs dans différents endroits. Et alors, certains viennent et utilisent et vident ces extincteurs de manière totalement égoïste. Et alors, le jour où on en a besoin, peut-être même la personne qui a vandalisé, le jour où elle en aura besoin, eh ben, l'extincteur ne marche plus. Donc c'est vraiment une preuve d'égoïsme. Donc ce sont des gens qui ne pensent même pas aux conséquences de ce qu'ils font. Parce que tout ce qui les préoccupe, c'est moi. Moi, qu'est-ce que ça va, le plaisir que je peux avoir moi en vandalisant. Certains brûlent les bus, brûlent les trains, mettent le feu, et après ce sont les mêmes qui viennent pleurer parce qu'il n'y a pas assez de transport, qu'il n'y a pas de transport public, mais ils ont mis le feu. Pareil avec les écoles. N'est-ce pas, nous avons pas connu, n'est-ce que nous n'avons pas aussi connu ça? Les jeunes viennent mettre le feu aux écoles en disant « j'ai des droits » et alors ils utilisent cette excuse d'avoir des droits pour détruire, pour vandaliser, pour brûler. Et après ce sont les mêmes qui viennent se plaindre qu'ils n'ont pas. Le premier repas de Thanksgiving, de reconnaissance donc aux États-Unis, était un sacrifice de louange. Donc aux États-Unis, Thanksgiving, c'est un jour férié. Et première célébration remonte à 1621. 1621, c'est la première année où ils ont fêté Thanksgiving. Donc les circonstances, c'était que les premiers immigrés, les premiers migrants qui sont arrivés aux États-Unis, en Amérique à l'époque, venaient de l'Angleterre, de la Hollande, et à cause des conditions, du climat, des maladies, beaucoup sont morts. Mais après un rude hiver, alors, ils ont survécu, les survivants ont alors célébré et remercié le Seigneur. Ils avaient tous perdu quelqu'un de leur propre famille, mais ils se sont retrouvés après la récolte et ils ont voulu remercier le Seigneur, exprimer ainsi l'appréciation au Dieu Tout-Puissant. Et alors, à ce moment-là, ils ont invité 90 Indiens à se joindre à eux dans cette expression d'appréciation pour la vie, la santé, la force et la nourriture que Dieu leur accordait. Parfois, Thanksgiving est un acte de sacrifice et de foi. Hébreux chapitre 13, verset 15, ce verset nous dit « C'est pourquoi, par lui, par Christ, offrons continuellement à Dieu le sacrifice de louange qui est le fruit de nos lèvres, rendant grâce à son nom. » Parfois, c'est difficile de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur quand on est en prison, de louer le Seigneur quand on est malade. Mais ce verset nous dit que c'est un sacrifice de louange que nous donnons, que nous offrons au Seigneur. Le thème de cette conférence est donc ce verset d'un Chronique 16, chapitre 16, verset 8. Rendez grâce au Seigneur, louez l'Éternel, faites appel à son nom, publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez à sa gloire, célébrez-le en musique, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Nous avons l'exemple de Fanny Crosby. Fanny Crosby est née en 1820 de parents puritains. Elle était descendante de colons arrivés aux États-Unis par le Mayflower. Et quand elle était petite, le traitement à la moutarde contre une inflammation de ses yeux a entraîné des lésions, des nerfs optiques et une cécité à vie. Donc Fanny Crosby est devenue aveugle. Mais malgré sa cécité, Fanny Crosby est devenue l'une des auteurs de chants spirituels, chants chrétiens, les plus prolifiques de l'histoire. Elle a composé plus de 8000 hymnes, 8000 chants et chants gospel. On peut imaginer une femme aveugle. C'est elle qui a écrit beaucoup des chants que nous chantons encore aujourd'hui. Plus de 100 millions de copies de ses chants ont été imprimées durant sa vie seulement. Elle a été désignée comme la mère des chants d'assemblée aux États-Unis. Un autre exemple, Ira Sankey, était un musicien et qui chantait, jouait de la musique avant les réunions tenues par le revivaliste D.L. Moody. Donc c'est en avant-première ou au début des campagnes évangéliques de Moody et aussi de Sankey, il chantait. Je suis sûr que vous connaissez certains de ses chants. Alors l'équivalent français, à Dieu soit la gloire, Blessed Assurance, qui à Dieu seul soit la gloire. Louez-le, louez-le. Sauvez les perdus. Beaucoup de chants connus. Je suis sûr même que nous chantons ou nous chanterons certains des chants de Fanny Crosby durant cette semaine. Imaginez, elle a même remercié le Seigneur pour sa cécité. Elle a écrit un jour, « La providence bénie de Dieu semblait vouloir que je sois aveugle toute ma vie. Et je le remercie pour cela. » Si une vision terrestre parfaite m'était offerte demain, je ne l'accepterais pas. Parce que je n'aurais peut-être pas chanté des hymnes à la louange de Dieu si j'avais été distrait par les choses belles et intéressantes qui m'entourent. quand j'arriverai au ciel, le premier visage qui réjouira ma vue sera celui de mon Sauveur Jésus-Christ. Selon sa biographe, si ce n'était pas à cause de son affliction, Fanny Crosby n'aurait peut-être pas eu une si bonne éducation, ni une si grande influence, et certainement pas une si grande mémoire. À partir de l'âge de 10 ans, Fanny Crosby mémorisait 5 chapitres de la Bible chaque semaine. On me demande pourquoi ces chants sont tellement remplis de références bibliques. Mais c'est parce que Fanny Crosby connaissait la Bible par cœur, ou une grande partie de la Bible. À 15 ans, elle avait mémorisé les 4 évangiles, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le livre des Proverbes et de nombreux psaumes, à l'âge de 15 ans. Donc elle avait déjà mémorisé les 4 évangiles et le Pentateuque, les livres, 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et donc Fanny Crosby est devenue un musicien accompli, une conférencière, elle a aussi été activiste. Elle était capable de jouer du piano, l'orgue, l'harpe et la guitare. Elle était connue pour être une bonne chanteuse soprane. En 1943, elle a aussi été la première femme à prendre la parole devant le Sénat des États-Unis. Elle a aussi été une activiste, une défenseuse, et elle a fait campagne contre l'abus d'alcool. Et donc elle était impliquée dans différentes organisations aux États-Unis. Bien qu'elle était connue surtout pour les chants qu'elle avait composés, écrits, mais elle était avant tout une travailleuse du Seigneur pour sauver des personnes dans le centre-ville, dans les centres-villes aux États-Unis. Pendant des décennies, elle a vécu dans les bidonvilles de Manhattan, comme certains qui ont connu les bidonvilles de Hell's Kitchen, Bowery, Tenderloin. Dès qu'elle recevait un peu d'argent, un paiement, des contributions pour la publication de ses chants, elle reversait tous ses bénéfices à des missions pour atteindre les personnes les plus pauvres et les plus nécessiteuses de la société. J'espère que quand vous chanterez les chants de Fanny Crosby, vous les apprécierez d'une autre manière en sachant cela. Une autre histoire, celle d'une personne, imaginez, vivre dans l'obscurité et le silence. C'est quelque chose que je fais expérimenter un certain nombre de personnes quand nous allons visiter le château, un château au Cap. Et alors, lorsque nous sommes dans le donjon du château, je ferme la porte et alors il n'y a plus de lumière. Et alors les gens Les visiteurs que j'emmène souvent ont une réaction, ils crient. Et pourtant, ils sont dans cette obscurité juste pour quelques secondes. Je me rappelle, ça me rappelle. Je me rappelle encore le 11 novembre 2005, lorsque nous avons eu la première coupure de courant au Cap. J'étais dans un supermarché et alors, quand le courant a coupé, alors toutes sortes de personnes se sont mises à crier. Donc nous n'aimons pas être dans l'obscurité, dans le noir. Alors imaginez quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans l'obscurité totale et dans le silence. C'était la vie que Helen Keller a vécue. Helen Keller est née en 1880 en l'état de l'Alabama aux États-Unis. Et à l'âge de 19 mois, donc elle n'avait même pas 2 ans, une maladie lui a complètement enlevé l'audition et la vue. Et ainsi, elle est devenue, sans surprise, un enfant incontrôlable, sauvage. Mais parce que ses parents n'arrivaient pas à communiquer avec elle dès son plus jeune âge. Certains enfants sont incontrôlables et sauvages, même en ayant la vue et l'ouïe. Mais en 1887, son enseignante, Anne Sullivan, elle a épelé avec ses doigts le mot eau, water, sur la main de Helen, tout en pompant de l'eau sur sa main. Donc elle a fait sur sa main, elle a écrit les lettres pour communiquer avec elle. Et avec cette expérience, Helen a pu apprendre à communiquer et à lire avec ses doigts. Et alors, à 24 ans, elle a été diplômée du Radcliffe College. Elle est devenue ainsi défenseur infatigable des personnes handicapées. Durant sa vie, elle a voyagé dans plus de 40 pays. Et elle a déclaré que la surdité était un mal plus grand que la cécité. Donc le fait d'être sourd était plus difficile que de ne pas voir. Est-ce que vous avez déjà remercié le Seigneur pour la vue et pour l'ouïe, de pouvoir entendre et voir? Peut-être devrais-tu expérimenter d'être aveugle pendant quelques jours. Helen Keller a déclaré un jour : « J'ai souvent pensé que ce serait une bénédiction si chaque être humain était frappé de cécité et de surdité pendant quelques jours au cours de sa vie d'adulte. Cela lui permettrait d'apprécier davantage la vue et les joies de la vie. » Voilà cette photo que j'ai prise, qui a été prise dans les montagnes du Nouba en Soudan. Depuis 4 ans, l'association Dr Solak fait un voyage et envoie des docteurs, des chirurgiens spécialistes des yeux. Et ils opèrent ainsi les gens qui sont atteints de mal, de mal au niveau des yeux. Vous ne pouvez pas imaginer la joie, l'émotion de personnes
qui retrouvent la vue après parfois des années de où ils ont été aveugles. Donc, avez-vous remercié le Seigneur? Verset de Colossiens 1:12 nous dit: « Rendez grâce au Père qui vous a qualifié pour partager l'héritage des saints dans le royaume de lumière. » Est-ce que tu as déjà réalisé les nombreuses bénédictions que Dieu t'a accordées? Est-ce que tu es reconnaissant pour la vue et pour l'ouïe? Peut-être vous êtes entouré de merveilleuses montagnes, vous qui venez des Drakensberg. Est-ce que vous avez remercié le Seigneur pour une telle vue? D'ailleurs, le mot Drakensberg veut dire la montagne du dragon. Est-ce que aussi l'océan, vous avez déjà vu l'océan? Peut-être êtes-vous déjà monté sur ces montagnes, vous avez déjà gravi. Est-ce que vous avez remercié le Seigneur pour les jambes, pour la santé que le Seigneur vous accorde? Moi aussi, j'ai gravi tant de montagnes à travers les continents. Et c'est vrai que c'est merveilleux quand vous êtes au sommet et que vous voyez la vue. Alors, quand est-ce pour la dernière fois as-tu remercié le Seigneur pour tes mains, tes jambes, tes yeux, tes oreilles, tous tes sens d'entendre, de pouvoir goûter? Quand est-ce pour la dernière fois as-tu remercié le Seigneur pour le soleil, pour la nature, pour les oiseaux qui chantent, pour les animaux sauvages? Pour les merveilleux animaux que Dieu a faits, comme les baleines, les dauphins ou les lions. As-tu déjà remercié le Seigneur? As-tu déjà remercié le Seigneur pour sa miséricorde, sa grâce, sa faveur imméritée? Je me demande, est-ce qu'il y a des jeunes comme moi, j'ai été à 17 ans, lorsque j'ai réalisé en disant « Seigneur, je ne t'ai jamais remercié pour rien du tout ». Est-ce qu'y a-t-il des jeunes comme cela parmi nous ce matin? Est-ce que tu vas mettre ces choses en ordre aujourd'hui? As-tu remercié le Seigneur pour ses bénédictions innombrables? D'être né de nouveau, c'est une bonté imméritée, incroyable, que le Seigneur accorde, un privilège que le Seigneur nous donne à travers la repentance, la foi, et le fait d'être adopté comme enfant de Dieu. C'est quelque chose. As-tu déjà remercié le Seigneur pour cela? As-tu remercié le Seigneur pour le pardon de tes péchés? Est-ce que tu as remercié le Seigneur pour avoir le privilège d'être son serviteur? Jésus a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, et nous avons le privilège de pouvoir être son enfant. As-tu remercié le Seigneur pour cela? Le péché est la conséquence, le résultat d'un manque de gratitude. Personne ne volerait s'ils étaient reconnaissants pour ce que le Seigneur donne. Les gens ne commettraient pas d'adultère ou ne vivraient pas une vie immorale
s'ils étaient reconnaissants pour la femme que Dieu leur a donnée. Donc, le manque de gratitude amène le péché. Est-ce que tu es reconnaissant pour tes parents? La civilisation est bâtie sur la gratitude envers Dieu et la reconnaissance envers les générations précédentes. Je n'étais pas reconnaissant envers mes parents et je l'ai été d'autant plus. J'étais vraiment reconnaissant lorsque je suis devenu moi-même parent et j'ai réalisé les sacrifices que mes parents avaient dû faire. Alors écoutez, jeunes gens, écoutez, vous regretterez d'être effronté avec vos parents, de ne pas être respectueux avec vos parents. Vous le regretterez le jour où vous aurez vous-même des enfants. Alors vous le regretterez, mais peut-être que ce sera trop tard. Martin Luther a déclaré « Il n'y a pas d'amour aussi sacrificiel et désintéressé que celui d'un parent. » Nous avons une grande dette envers les grands réformateurs tels que Martin Luther. Parce que Martin Luther a été un des champions, on pourrait dire, un grand défenseur de la liberté de conscience, de la liberté de culte, de la liberté de pensée. Ces concepts n'existaient pas à l'époque. C'est Martin Luther qui a été le premier à défendre ces principes. Et Martin Luther a aussi rappelé que la Bible doit être le seul fondement de toute vérité et de toute éducation. L'Écriture seule est l'autorité ultime. Sola Scriptura, l'Écriture seule. Comme dans cette peinture qui est dans le palais de justice, dans un palais de justice en Suisse. Vous avez la femme, la justice, qui se tient avec une balance dans la main. Et elle pointe la Bible avec une épée. Alors que les dirigeants de la ville regardent à elle pour la sagesse. Et en haut, il est écrit « La justice élève les nations ». Donc, les anciens de la ville regardent à la justice. Et les principes de justice sont fondés dans la parole de Dieu. Nous devons être remerciés, nous devons être reconnaissants pour les réformateurs. Parce que avant les réformateurs, c'était les rois ou c'était le pape qui avait autorité. Et ce que eux décidaient, voilà ce qui était appliqué. Donc c'était le principe de rex lex, c'est-à-dire la parole du roi était plus importante que la loi. Mais avec les réformateurs, ils ont changé le principe pour dire non, c'est la loi de Dieu qui est au-dessus du roi, qui doit diriger, gouverner. Alors, est-ce que nous sommes reconnaissants pour cela? Nous devons être reconnaissants envers le réformateur Zwingli, qui a été un des premiers à avoir renoncé à la messe latine et à commencer à parler et à exposer la Bible. Et ça a été aussi un des premiers à prêcher dans la langue de ceux qui étaient là. Donc on peut être reconnaissant si nous avons la Bible en zoulou aujourd'hui ou en anglais. Alors c'est grâce à ces réformateurs. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour, par exemple, William Tyndale, qui a été même brûlé vif parce qu'il a été le premier à vouloir est-ce que la Bible soit traduite en anglais. Donc il a donné sa vie, même brûlé vif, pour que nous puissions avoir la Bible en anglais. Le peuple en Inde, donc les Indiens, ont une immense dette de gratitude envers le missionnaire William Carey, qui, par son ministère, a mis fin à l'incendie ou alors à la crémation des veuves. Donc à l'époque, si quelqu'un mourait, un homme mourait, alors on brûlait son corps, mais on brûlait aussi la veuve, la femme, vive avec le corps du défunt. C'est aussi lui qui a mis fin à l'incendie ou à la crémation des lépreux. Et ainsi, lorsque le père mourait, les enfants devenaient complètement orphelins puisqu'on brûlait la mère avec. Et donc William Carey a été le premier qui a manifesté, qui a lutté contre cette pratique et qui a mis fin. Aussi les hindous. Les hindous croyaient que en brûlant les lépreux, donc en les brûlant vifs, alors cela allait les aider pour leur transition dans leur réincarnation. Mais c'est William Carey qui a aussi contribué à l'arrêt. Une autre chose terrible qui se passait en Inde, c'était le sacrifice des premiers-nés. Les femmes prenaient leur enfant, le premier-né, et le jetaient dans le fleuve qui était rempli de crocodiles. Et alors ainsi, elles sacrifiaient leurs enfants aînés en pensant que cela leur apporterait bonheur. Et les Indiens, les Hindous croient que la femme ne peut pas avoir une bonne vie tant qu'elle n'est pas réincarnée en homme. Et c'est William Carey qui a aussi été un des pionniers pour ouvrir des écoles pour filles. Il a aussi commencé le premier collège, ou le premier, on va dire, université, école secondaire chrétienne en Asie. D'ailleurs, c'est une école qui existe encore aujourd'hui. Et il a aussi contribué à traduire la Bible, le Nouveau Testament, en 35 langues. Imaginez, une personne, il a aidé pour traduire la Bible ou le Nouveau Testament en 35 langues. Quel héritage! Nous tous, nous devrions être reconnaissants. Reconnaissant aussi à l'explorateur missionnaire, le docteur Livingstone, qui a ouvert le chemin de l'Afrique pour l'Évangile Et il a dénoncé à l'époque, il a fait campagne pour mettre fin à la traite islamique des esclaves. Quand David Livingstone est atterri au Cap en 1841, il y avait, on estime qu'environ 5 millions de chrétiens dans tout le continent africain. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 680 millions de personnes en Afrique qui se prénomment chrétiennes. Et d'ailleurs, il y a une prévision que ce chiffre devrait doubler d'ici 25 ans. Une organisation chrétienne estime que nous aurons en 2050 1,2 milliard de chrétiens en Afrique. Tous les Nigérians devraient être reconnaissants envers la missionnaire Marie Slessor. Quand elle est arrivée au Nigeria, les gens étaient très superstitieux et par exemple, ils pensaient que les jumeaux étaient quelque chose de diabolique. Donc ils sacrifiaient, ils tuaient les jumeaux. Ainsi, elle a sauvé les jumeaux, elle les a adoptés et elle s'est opposée aux sorciers qui tuaient ses enfants. Elle a aussi fait campagne contre la traite des esclaves, le cannibalisme, l'ivresse. Elle a ouvert des écoles chrétiennes et elle a implanté des églises jusque dans les régions reculées du Nigeria. Loué soit Dieu pour cette petite femme écossaise et qui est arrivée en Nigeria sans le soutien d'aucune société missionnaire. Et même, elle a évangélisé dans des régions où même les hommes n'osaient pas aller. Mais elle a affronté tout cela avec la passion pour l'Évangile. Nous devrions être reconnaissants pour le ministère et pour ce que William Wilberforce a fait, pour le combat de toute sa vie où il a mené croisade contre la traite négrière et pour faire libérer les esclaves. C'était un homme petit qui était souvent malade, mais avec toute son énergie, il a lutté contre l'esclavage. Et grâce à lui, l'Angleterre a mis fin à l'esclavage. Il s'est mobilisé et il a fait signer plus d'un million de personnes en Angleterre. Il a fait signer une pétition contre l'esclavage. Et tout cela, sa contribution a amené à ce que les autorités mettent fin à l'esclavage officiellement. Toutes nos vies ont été enrichies par les écrits de Andrew Murray, par les prédications de Charles Spurgeon. As-tu déjà remercié le Seigneur pour ces personnes qui ont eu une influence sur ta vie spirituelle? Il y a aussi des inventeurs, des innovateurs qui ont fait que nos vies sont... On a une meilleure santé, nos vies sont aussi facilitées. rappelle quand j'étais missionnaire dans les montagnes du Nouba, en Soudan. J'ai été face à un missionnaire, un pasteur, qui n'avait pas de jambes, qui n'avait pas de pieds. Comment est-ce qu'on peut perdre les pieds? En fait, ce sont les musulmans arabes qui lui avaient coupé les pieds à la hache à cause du fait qu'il était prédicateur de l'évangile. Et alors, malgré le fait qu'il ait eu les pieds coupés, il a continué, il a pris un âne. Là, vous avez la photo où il traversait le Soudan pour annoncer l'évangile. La Bible nous dit les pieds, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ce frère n'a pas de pieds, n'a plus de pieds. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à prêcher, à répandre de la bénédiction autour de lui, même auprès de ses ennemis. Donc un homme sans pied peut annoncer l'évangile. Une femme sans yeux a pu produire tous ces chants. Alors est-ce que toi, tu as une excuse pour te plaindre? Est-ce que tu as déjà remercié pour les pères dans la foi qui ont ouvert la voie pour nous? Tant d'exemples. Nous avons tant d'exemples pour lesquels nous pouvons être reconnaissants. Rappelez-vous Hébreux 11, où Dieu liste, la parole liste tous ses pères dans la foi, tous ces gens qui nous ont précédés. Est-ce que vous avez remercié Dieu pour Abraham, le père de la foi? Il était premier missionnaire. Il a laissé son pays, il a laissé sa famille et il est devenu le père de tous les croyants. Gloire à Dieu pour Moïse et Josué, pour les exemples qu'ils ont été, pour Gédéon et ses 300 hommes. Pour David qui a affronté Goliath. Daniel qui, malgré le fait qu'il était dans un pays étranger, en exil, il est resté fidèle au Seigneur. Est-ce que nous ne pouvons pas remercier le Seigneur pour Paul, pour les apôtres Pierre, et nous avons aussi été bénis par les contemporains de Paul, à savoir Tite, Timothée. Nous avons aussi dans le livre des Actes des noms comme Marc, Luc, Jean. J'ai moi-même écrit un livre dont le titre est « Les chrétiens victorieux qui ont changé le monde ». Et donc c'est un livre qui retrace la vie de missionnaires comme Patrick en Irlande ou d'autres personnes. Un autre livre sur les réformateurs comme Wycliffe, Luther, Zwingli, Jean Calvin. Donc tous réformateur principal, Martin Luther. On peut aussi faire les biographies de personnes missionnaires du 19e siècle, comme Carey, Livingstone, Hudson Taylor, et Nathan. Aussi des prédicateurs comme Whitfield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Leurs témoignages et leurs écrits continuent à nous faire avancer et aller plus profondément dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont venus en Afrique du Sud dans les siècles derniers pour creuser et trouver de l'or dans le souterrain de Johannesburg. Mais tu trouveras plus d'or en creusant dans la Bible. Nous devons étendre, élargir notre vision missionnaire et approfondir notre dévotion, notre consécration. Alors la question se pose, est-ce que tu n'es pas capable de faire plus pour le Seigneur? Probablement, tu peux étudier sa parole, plus étudier sa parole. Tu peux encore plus évangéliser. Tu peux être encore plus un témoin de l'Évangile. En tout, toute chose, rendez grâce à Dieu. Vous savez, les chrétiens persécutés donnent un éclairage bien différent sur nos problèmes. Vous savez, certaines personnes, leur principal problème journalier, c'est « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire pour le repas ce soir ?» Vous savez, les personnes auxquelles je suis, j'ai un ministère, vous savez, c'est des gens qui n'ont même pas à manger. Vous savez, quand on apporte de la nourriture à ces personnes où les opposants, leurs ennemis ont brûlé leurs champs, alors ils n'ont rien à manger. Alors ils sont reconnaissants pour ce qu'on leur donne. D'autres qui se disent, ah, vous savez, d'autres se disent, qu'est-ce que je vais porter? Vous savez, il y a même des femmes, elles sont face à leur dressing, leur placard rempli d'habits en se disant, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Vous savez, beaucoup de gens parmi lesquels je travaille en tant que missionnaire, ils n'ont même pas d'amis. Ils ont une seule chose à mettre par jour. Vous savez, ils n'ont même pas de choix. Ils ont un seul habit. Alors c'est vite fait, le choix. Peut-être toi, tu te plains en disant « Quelles chaussures je vais porter aujourd'hui ?» Regardez la photo de ce frère, il n'a pas de problème. De choix de chaussures, il n'a plus de pieds. Peut-être. Tu te plains de ne pas avoir de chaussures et regarde, cette femme, elle n'a pas de pied. Est-ce que tu as besoin encore d'autres exemples pour savoir pour ce pourquoi tu dois être reconnaissant? Vous savez, dans les pays anglophones, il y a des gens qui se disputent pour savoir quelle traduction de la Bible il faut lire. Vous savez, dans bien des pays, dans bien des nations, des peuples aujourd'hui, les gens n'ont même pas la Bible dans leur langue. Et nous, on se plaint de savoir quelle traduction. Vous avez environ 680 millions de chrétiens en Afrique, mais bien nombreux sont ceux qui n'ont même pas la Bible. Donc environ 500 millions de chrétiens ou de gens qui vont à l'église n'ont pas leur propre Bible. Donc si tu as la Bible à la maison, alors sache que tu fais partie de ceux qui sont bénis. Le Seigneur nous a donné sa parole. Alors c'est notre responsabilité de la distribuer et la proclamer. J'ai eu bien de nombreuses fois l'expérience de gens à qui j'ai donné une Bible et qui me répondaient « Tu sais frère, ça fait plus de 5 ans que je prie pour avoir une Bible. Depuis que les communistes ont retiré la Bible, je n'ai jamais eu de Bible à moi. Comme en Angola, au Mozambique, quand nous leur avons donné la Bible, ils se sont mis à genoux, ont pleuré. Et une fois qu'ils avaient la Bible dans la main, une fois qu'on leur avait donné une copie, alors ils levaient la Bible en l'air et en criant à Dieu, « Merci Seigneur pour ta parole. » La Bible est le plus grand cadeau que nous pouvons recevoir, surtout si c'est dans ta propre langue. Est-ce que tu réalises le cadeau que tu as si tu as la Bible entre tes mains? C'est un merveilleux privilège d'avoir la Bible et de pouvoir l'avoir proche de son cœur. Nous avons distribué des milliers de bulles de Bible dans les montagnes du Nouba, au Soudan du Sud. Et certains nous ont dit, c'est la première fois que quelque chose m'appartient, certains enfants. Si tu as un téléphone portable, mais que tu n'as pas la Bible, alors sache que tu es plus pauvre que quelqu'un qui n'a que la Bible. Comme j'écris des livres, j'ai aussi eu le conseil d'écrire des livres et donc de dédicacer certains de mes livres à certaines personnes. Un de mes premiers livres était un livre sur les persécutions en Mozambique et que j'ai pu dédicacer j'ai eu le privilège d'être sous l'influence de Francis Grimm, qui a été fondateur d'une organisation pour les hôpitaux. Et il m'a enseigné comment vivre, comment prier. Et ça arrivait que nous prions. Et c'est lui qui m'a enseigné, qui m'a appris à vivre par la foi. Parfois, je partais en mission et j'avais 5 rands dans la poche. Quand j'étais dans mon premier voyage missionnaire, au Mozambique, c'est suite à cela que j'ai écrit mon livre, mon premier livre que j'ai dédicacé donc à ce Francis Grimm. Une autre chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. 1982, quand j'ai commencé mon ministère en Mozambique, c'était un pays qui était fermé à l'évangile. Les églises avaient été fermées, détruites. Pas de Bible, pas de chrétiens officiellement, mais aujourd'hui, le pays est grand ouvert à l'évangile. En 1982, seulement 4% des Mozambicains se prévalaient d'être chrétiens. Aujourd'hui, c'est 34%. Donc, loué soit le Seigneur pour ce qu'il fait au Mozambique. Mon enseignant favori, quand j'ai fait mes études bibliques, était le professeur Fritz Haus. C'était un homme qui craignait Dieu et qui était consacré à l'Évangile. Il était un ancien soldat et il avait Durant son service militaire, il a conduit des études bibliques et des réunions de prière. Et pendant 60 ans, il a implanté des églises à travers toute l'Afrique du Sud. Professeur House était quelqu'un de grande bénédiction et un professeur qui était aimé, apprécié. C'est lui qui m'a introduit, qui m'a initié aux doctrines de la réforme. Et c'est ainsi pourquoi j'ai dédicacé mon livre au professeur Fritz. Un autre homme à qui j'ai dédicacé l'édition de mon livre, La foi sous... La foi au Soudan, donc je l'ai dédicacé au docteur Brent Noble. Et c'est par la vision de cet homme que nous avons mobilisé des milliers d'étudiants pour que nous puissions amener l'Évangile, amener des Bibles et avoir un ministère d'évangélisation au Soudan. Comment a-t-il fait ? Et il a encouragé les étudiants à économiser, et plutôt que d'acheter un café Starbucks, alors il encourageait les étudiants américains à mettre cet argent qu'ils dépensaient pour le café ou leur boisson favorite. Alors il les encourageait à le mettre de côté et que cet argent serve plutôt à acheter des Bibles pour les envoyer au Soudan. Donc la vue d'un homme permet de lire la Bible et de voir des films chrétiens. Et le docteur Noble est décédé en 2002, mais sa vision missionnaire et sa générosité sacrificielle continuent d'avoir une influence. Et donc, si un missionnaire comme lui ou comme cet homme que nous avons vu qui n'avait plus de pied au Soudan sont capables de continuer à annoncer l'Évangile, alors est-ce que nous avons une excuse pour ne rien faire ? L'hymne favori de ce frère Brent Noble était le chant Amazing Grace quand il est dit dans une des strophes: j'étais aveugle et maintenant je vois. Mais je dois le dire, malheureusement, bien des gens aujourd'hui ont les yeux physiques, mais ils sont complètement aveugles spirituellement. Je dois le dire avant que je devienne chrétien né de nouveau. J'étais moi-même aveugle spirituellement. Non seulement aveugle, j'étais muet et sourd spirituellement. Je vous donne un exemple. À l'école, nous chantions des chants. C'était la tradition. C'était la tradition à l'époque quand j'étais à l'école. Au début de chaque journée, on nous lisait la Bible et on chantait des chants chrétiens. Mais je dois dire, aucun de ces concepts bibliques n'est rentré dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur avant cette journée du 3 avril 77 lorsque je me suis converti. Donc, pour précision, je suis né dans ce qu'était la Rhodésie à l'époque, mais c'était ce qu'est le Zimbabwe aujourd'hui. Alors ce pays était bien différent du Zimbabwe actuel, mais nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur fait au Zimbabwe. Je ne suis pas né au Zimbabwe. Certains veulent me corriger en disant « Non, tu dois dire le Zimbabwe. » Non, je dis non, puisque je ne suis pas si jeune. Je suis né en 1960 et à l'époque, ça s'appelait la Rhodésie. Et quand je me suis converti, j'ai commencé à chanter ces chants que nous avions chantés à l'école. Et même certains, je les connaissais par cœur, puisqu'on les avait chantés à l'école. Mais je n'avais jamais compris, je n'avais jamais réalisé la profondeur de ces paroles jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux spirituellement. Malgré le fait que je chantais ces chants, ces paroles ne voulaient rien dire pour moi. Et est-ce que c'est peut-être le cas aussi pour vous? Vous chantez des chants, vous connaissez les paroles, comme les paroles de ce chant de Amazing Grace qui dit « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Mais ce concept et les idées, même les paroles de ces chants, ne résonnent pas dans votre cœur. Vous ne comprenez rien. Si ce que les chants, les paroles, les chants que nous entendons, si cela n'a pas d'écho dans ton cœur, dans ton esprit, alors cela est la preuve et le signe que tu es spirituellement aveugle et sourd. Par notre ministère, nous avons des milliers de kilos de littérature qui arrivent par container. Alors, nous avons l'expérience tous les mois de l'exercice physique, de salle de gym. On n'a pas besoin d'aller à la salle de gym. Musculation, parce qu'il faut décharger ces containers. Alors, nous déchargeons ces cartons de littérature et après que nous distribuons même jusque dans le fin fond de l'Afrique. Donc, rappelez-vous, je l'ai dit, 500 millions d'Africains n'ont pas la Bible. Donc, c'est notre objectif de pouvoir distribuer ces littératures, ces livres, ces Bibles, de les distribuer à travers l'Afrique, dans la langue, dans les langues, différentes langues des pays d'Afrique. Les gens, le peuple a besoin de la parole de Dieu. Vous savez aussi, la plupart des pasteurs en Afrique n'ont pas eu d'éducation formelle, n'ont pas les bases de ce que la Bible nous dit. Nous avons aussi des posters que nous donnons pour initier et enseigner les enfants, comme vous connaissez peut-être ce poster avec le chemin étroit et le chemin large. Cela nous permet d'enseigner et d'expliquer les concepts bibliques aux enfants. Je suis reconnaissant pour tous les gens qui nous permettent de pouvoir avoir ces littératures et pouvoir les distribuer, en particulier dans les pays musulmans qui normalement interdisent la distribution de telle littérature. Mais nous avons alors différents moyens. Nous utilisons aussi des avions pour amener ces littératures, cette littérature. Donc nous avons par exemple trafiqué, on pourrait dire, ou introduit illégalement cette littérature. Et comme vous pouvez voir sur ces photos, nous avons quand même pu atterrir illégalement, chassés même par des avions et des hélicoptères militaires de l'armée du Soudan, mais nous avons pu quand même décharger et amener ces cartons. Comme vous pouvez voir, tous ces gens viennent. Il n'y a pas de camion, il n'y a pas de route. Et alors, chacun vient et nous aide physiquement à porter ces cartons. Nous avons aussi des bibles ou de la littérature chrétienne sur audio. C'est quelque chose de très populaire. Ceux qui ne peuvent pas lire ou qui sont aveugles, alors nous distribuons ces bibles audio. Donc certaines ont un petit panneau solaire qui permet de recharger et de ne se passer de piles. Nous pouvons prier pour le ministère de la littérature pour l'Afrique. Nous distribuons tous les ans des milliers de Bible et de littérature chrétienne. Et aussi de livres d'éducation, d'enseignement pour les pasteurs et les anciens. Vous devez être aussi reconnaissant pour le ministère du pasteur Erle Steggen, qui est source d'inspiration et un exemple de dévouement et de consécration. Donc l'Erlo a été le missionnaire africain, le missionnaire sud-africain le plus béni, et peut-être même en Afrique. Sa consécration et sa fidélité a permis de mettre des jambes sur sa foi. Et cela reste une inspiration et un exemple pour nous tous, pour nous chrétiens. Et encore aujourd'hui, grâce aux enregistrements, il peut continuer à être une bénédiction. Rappelez-vous, même lors de son enterrement, nous avons pu encore entendre ses prédications. Nous avons tellement de raisons de remercier le Seigneur pour oncle Erlo, pour le ministère, pour la mission qu'il a fondé, qui continue à nous bénir, à nous enrichir et à nous équiper pour notre marche spirituelle. Donc Erlo, sa famille et les coéquipiers de cette mission ont été de vrais amis. Comme on dit en anglais, un ami dans le besoin est un véritable ami. Et cet endroit où nous sommes est comme une ville, une lumière au sommet de la colline, non seulement pour nous en Afrique du Sud, mais à travers le monde. Combien de personnes ont été bénies grâce à ce ministère ? Moi-même, j'en fais partie. Et ceux qui sont passés par l'école, les conférences de jeunes, 50 ans maintenant cette année de conférences. Combien de jeunes sont passés par la mission grâce à ces conférences de jeunes? Est-ce que tu connais d'autres endroits où on te fournit le logement, 3 repas par jour, tout gratuitement? Dis-moi, montre-moi où est-ce qu'il y a d'autres endroits qui donne un tel service, on pourrait dire, qui offre
un logement et 3 fois par jour à manger. Durant, au moment de l'enterrement, j'ai parlé avec un député qui était présent au moment de l'enterrement et j'ai posé la question à ce parlementaire. Je lui ai dit, est-ce que tu connais un département de l'État, un ministère de l'État qui a fait autant que le ministère d'Oncle Herlo et de la mission Kossé Bantou? Il m'a répondu, oublie, pas même un ministère n'a fait autant que la mission Kossé Bantou. Et je te parle même pas du gouvernement sud-africain. Donc des vies transformées pour quelque chose de mieux. Nous remercions, nous louons le Seigneur pour sa grâce qui a été déversée sur tant de multitudes et qui continue à couler aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui ce livre qui donc nous avons pu éditer ce livre qui a été fait, qui parle de la vie du pasteur Stegen, avec le titre « Esclave de Christ ». Et nous l'avons aussi rendu, nous l'avons transformé en e-book. Donc ça m'a permis aussi de dédicacer mes 2 derniers livres à la foi du pasteur Stegen. Donc mon livre qui dit « Mettre des pieds à notre foi ». Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes bien ingrats. Nous sommes dans l'âge de « Donne-moi ». Même des gens aujourd'hui sont ingrats, même à Noël, parce qu'ils n'ont pas les cadeaux qu'ils voulaient. Alors que Noël devrait être une occasion de donner. Bien, de gens aujourd'hui sont ingrats, consumés par cet esprit de demande. Donc un exemple de gratitude dans le livre de Tolstoï, Guerre et paix. Vous avez l'exemple d'un homme, un paysan tout simple, mais qui est toujours reconnaissant, qui est toujours joyeux. Et alors qu'à l'inverse, celui qui est riche est malheureux. Et alors, quand la personne riche rencontre ce paysan pauvre, il essaie de comprendre pourquoi il est plus heureux, plus joyeux et plus en paix que lui. Et il découvre que le principe est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je remercie le Seigneur pour les fois où j'ai été confronté à des épreuves, où j'étais en prison, j'ai été torturé, où j'ai été dans des moments difficiles. Vous savez, je ne passe pas un jour où je ne remercie pas le Seigneur pour de l'eau propre, pour un coussin propre. Parce que vous savez, si vous avez été près de la mort,
Si vous avez été sous le feu des ennemis, alors vous appréciez d'autant plus ce que vous avez. Les épreuves peuvent vous enseigner bien des choses. Vous savez, quand vous avez des gens qui cherchent à vous tuer, vous avez des bombes qui explosent autour de vous, alors vous êtes tellement reconnaissant pour chaque jour que Dieu vous accorde de vivre. Qu'est-ce que Dieu doit encore faire pour avoir ton attention? Est-ce que tu dois finir dans la fournaise comme les trois amis de Daniel? Si tu passes ton temps avec Hollywood, tu découvriras combien l'influence de Hollywood est mauvaise. Comme par exemple dans une série télé où la femme remerciait Dieu pour la nourriture. Vous savez, aujourd'hui, Hollywood est blasphématoire. Dans ce film, dans cette série, quand la femme a donné, de remercier Dieu pour la nourriture, son mari lui a répondu: « Mais pourquoi est-ce que tu devrais remercier Dieu? C'est moi qui travaille, qui paye pour cette nourriture. Et c'est toi qui la cuisine. » Alors, nous n'avons pas besoin de remercier Dieu. Mais malheureusement, un tel comportement, une telle cécité spirituelle est quelque chose de bien commun aujourd'hui. Vous savez, derrière toute nourriture que nous avons sur la table, vous avez un fermier, vous avez un transporteur, vous avez un véhicule, etc. La pluie aussi, le soleil pour faire pousser. Et alors nous avons tant de raisons pour remercier le Seigneur, parce que c'est sa main qui permet que nous ayons à manger. Beaucoup disent: « Ah, d'où vient cette nourriture ? Ah, du magasin, de tel magasin, telle chaîne. » Je dis non, ne viennent pas. Certains en ville, vous savez, quand on leur demande d'où vient, où est-ce que tu as eu la nourriture, ils disent: « Ah, bah, du magasin. » Ils n'ont aucune notion de que la nourriture vient d'une ferme, de quelque part. Psaume 107 dit: « Oh, que les hommes remercient le Seigneur pour sa bonté et pour les œuvres merveilleuses. » Il n'y a pas de plus grand devoir et de devoir plus urgent que de remercier Dieu. C'est bon de remercier le Seigneur avant chaque repas, de prier avant de prendre la voiture ou même de faire du vélo. Mais nous devons aussi remercier le Seigneur d'être arrivé à bon port, en bonne santé. Charles Spurgeon a dit: il devrait être habituel pour nous de remercier autant que de demander. Donc Charles Spurgeon a dit: on devrait avoir l'habitude autant de remercier que de demander au Seigneur. Quelqu'un a demandé une fois à Spurgeon: qu'est-ce qui est plus important, de remercier ou d'intercéder? Alors il a répondu: qu'est-ce qui est plus important, d'expirer ou d'inspirer? On ne peut pas faire l'un sans l'autre. un cœur reconnaissant est la plus grande des vertus. Mais c'est aussi important de voir que le péché d'ingratitude est à la racine de bien des mals. Dans Romains 1, 18, verset 18, il est rappelé que la colère de Dieu s'est répandue sur ceux qui ne remercient pas le Seigneur. Bien qu'ils aient connu Dieu et ils ne l'ont pas remercié. Donc dans Romains 1, il est dit « Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne le remercient pas. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Il est dit au verset 21, « Bien qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. » Et alors, nous savons ce qui se passe quand les hommes ne sont plus reconnaissants. Notre passage que nous avons lu au début, quand Jésus a guéri les 10 lépreux, Jésus leur dit, n'y a-t-il personne pour revenir et louer Dieu, sauf ce Samaritain? Où sont donc les 9 autres? Je dois dire, dans l'expérience de nos missions, nous avons aussi souvent constaté qu'à peine 10% des gens que nous aidons prennent la peine d'exprimer leur gratitude verbalement, soit sous forme de lettres ou de cartes. J'espère que vous êtes reconnaissant et vous remerciez ceux qui vous servent à manger durant ces jours. Ils prennent le temps de vous servir, de vous faire à manger. J'espère que vous leur dites au moins merci. Dans 1 Timothée 3, l'apôtre Paul nous donne une liste de certains péchés les plus terribles. Il est dit, les gens seront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, vantards, orgueilleux, ayant des comportements abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, impitoyables, calomnieux, sans maîtrise de soi, brutaux, pas amoureux du bien, traîtres, téméraires, vaniteux, amoureux du plaisir plutôt que de Dieu, ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait sa force, sa puissance. Donc vous voyez, l'ingratitude est au cœur, au milieu de l'énoncé de tous ces travers, de tous ces péchés. Une des premières leçons que les parents cherchent à apprendre à leurs enfants, et le premier mot même, c'est de dire merci. Le mot seul, c'est de dire, alors en anglais, un mot, c'est please. Donc expression un mot, c'est « s'il te plaît ». Deuxième mot le plus important à 2 lettres, c'est « thank you »,« merci ». Et le troisième mot le plus important, 3 mots, c'est « je suis désolé ». Donc, il faut du courage pour admettre avoir une dette envers les autres. C'est quelque chose d'humiliant. Et pourtant, nous vivons dans une société basée sur l'orgueil. Comme j'ai dit, nous avons besoin d'un moi de l'humilité, non pas d'un moi des fiertés. Une personne qui ne peut pas admettre sa dette envers les autres ne peut pas apprendre ni à remercier, ni à dire pardon. Vous savez, ne pas exprimer sa gratitude est plus que de l'immaturité ou de la grossièreté. C'est quelque chose d'impie, de méchant par nature. C'est quelque chose qui démontre une certaine maturité, d'être capable de remercier, d'exprimer sa gratitude. Parce que nous sommes toujours redevables de quelqu'un. Nous sommes redevables, bien sûr, envers Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la vie, la santé, la nourriture, les talents, notre famille, nos amis, les opportunités. Et même notre salut, c'est par lui-même que nous recevons toutes ces choses. Nous avons aussi une dette envers les générations passées qui se sont sacrifiées pour que nous jouissions des libertés d'aujourd'hui. Nous devrions être reconnaissants pour les réformateurs, les martyrs, les pionniers, les missionnaires, les réformateurs, les soldats, les parents, les enseignants, les pasteurs et tous ceux, tant d'autres, qui se sont sacrifiés pour que nous puissions jouir de nos libertés. Ceux qui ne suivent pas les conseils, de tels conseils pensent qu'ils n'ont rien à apprendre. Ces mêmes personnes sont souvent celles qui ont aussi du mal à exprimer une sincère gratitude envers les autres. Être ingrat est un signe de fierté, d'orgueil, et cela révèle une réticence à reconnaître notre dette envers les autres. Au lieu d'avoir un caractère chrétien de gratitude, notre culture actuelle préfère promouvoir une attitude et une société de droit. Avoir droit à quelque chose, c'est tout l'inverse de ce qu'est la gratitude, la reconnaissance. Parce que cette attitude de droit s'appuie sur l'orgueil et la convoitise. Cette attitude de droit est alimentée par l'amertume, la cupidité et l'envie. Je suis une bonne personne, mais j'ai droit à plus. Donne-moi, donne-moi, donne-moi encore. Certaines personnes disent, ont même l'affront de dire « Dieu n'est pas juste, c'est pourquoi je demande des comptes à Dieu ». Vous savez, si nous disons que Dieu doit être juste, la seule chose juste qu'il peut faire, c'est nous envoyer en enfer. C'est tout ce que nous méritons. Mais nous avons la grâce du Seigneur, son amour, qui sont tous immérités. Trop de personnes dans notre société humaniste actuelle prennent les choses comme acquises et exigent de recevoir encore plus, plutôt que de chercher à donner. Mais l'essence même du christianisme, ce qui en fait son cœur, c'est de donner et non pas de recevoir. Vous savez, un proverbe qui dit « Donne librement et tu deviendras plus riche. Sois avare et alors tu perdras tout. » Vous voyez ici même à la mission, Kwasi Zamantou, Oncle Erlo, les coéquipiers de cette œuvre donnent librement et le Seigneur bénit. Et à l'inverse, vous avez des organisations qui font tout payer et qui pourtant n'arrivent pas à avancer. Est-ce que tu veux vivre pour recevoir ou est-ce que tu veux vivre pour donner? Martin Luther a observé que nous manifestons un degré de gratitude dans la vie inversement proportionnel à la quantité de bénédictions que nous avons reçues. Il a écrit encore, « Plus les dons et les œuvres de Dieu sont grandes, moins elles sont considérées ou appréciées. » Peut-être. Tu n'apprécies pas les bénédictions de la vie, de la santé, de la liberté, de la nourriture, que lorsqu'elles sont perdues ou menacées. Le lever de coucher, le lever de soleil, le coucher de soleil arrivent tous les jours. Elles sont considérées comme acquises. Combien d'entre nous avons remercié ce matin le Seigneur pour le lever du soleil? Considérez les étoiles, parce qu'elles sont là tous les soirs, toutes les nuits, nous ne faisons même pas attention. Est-ce que nous avons remercié le Seigneur pour les étoiles? Vous savez, de même, les bienfaits de la pluie sont à peine appréciés lorsque on habite dans un endroit où il y a beaucoup de pluie. Mais c'est seulement quand on a traversé une sécheresse qu'on est reconnaissant pour la pluie. Vous savez, un homme affamé est bien plus reconnaissant pour ce qu'il reçoit à manger qu'un homme riche qui a la table lourdement chargée. Est-ce que vous avez visité des personnes âgées dans des maisons de retraite? Vous savez, une femme seule dans une maison de retraite appréciera davantage la visite qu'une personne populaire dans l'établissement à qui on organise une fête. Vous savez, un chrétien qui a souffert de persécutions pendant des années, des décennies, et qui reçoit son premier exemplaire de la Bible, sera beaucoup plus reconnaissant pour ce seul livre qu'il aura que nous qui avons tant de livres chrétiens, de traductions de la Bible et de magazines qui débordent sur nos étagères. Il y a au moins 138 passages dans les Écritures qui traite du sujet de la reconnaissance, de l'action de grâce. Par exemple, psaume 100, il est dit « Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Rendez-lui grâce et louez son nom. » Notre référence, Colossiens 15, « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car en tant que membres d'un seul corps, vous avez été appelés à la paix, et soyez reconnaissants. » Ce sont là des commandements de la Bible. Autre chose, autre référence, Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » Et la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Nous voulons louer le Seigneur pour nos vrais amis, pour ceux qui prient pour nous, pour nos collègues, pour ceux qui nous soutiennent. Et tous ceux qui se tiennent à nos côtés dans les moments difficiles.
c'est par grâce à Dieu que nous pourrons vaincre. La Bible nous dit qu'aucune arme contre nous ne pourra nous vaincre. Seigneur Dieu nous a envoyé ses anges pour tenir la garde autour de nous. Et il est notre forteresse et notre appui dans les temps de détresse. Notre référence, soyez reconnaissants en toutes choses. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, publiez ses œuvres parmi les nations et remerciez-le. Nous voulons prier encore. Seigneur, nous voulons t'implorer d'être miséricordieux envers nous. Pardonne-nous lorsque nous ne sommes pas reconnaissants et lorsque nous ne te remercions pas pour tout ce que tu nous donnes. Pardonne-nous, Seigneur. Lorsque nous avons considéré les choses comme acquises et lorsque nous pensons avoir droit à quelque chose, Seigneur, nous te prions, aide-nous à être des enfants respectueux qui remercient leurs parents, qui les apprécient et les soutiennent. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont rendu possible que cette conférence ait lieu. Nous te remercions pour tous les travailleurs, tous ceux qui ont travaillé durement pour que ces événements puissent se passer et aussi que cela puisse être totalement gratuit pour nous tous. Merci pour les chauffeurs qui sont venus nous chercher. Merci pour ceux qui ont fourni les bus, pour ceux qui ont payé pour l'essence. Merci pour les fermiers qui ont fourni la nourriture, pour les cuisiniers qui ont cuisiné pour nous. Seigneur, te remercions pour cette journée. Nous voulons te remercier pour nos vies, pour la santé que tu nous accordes. Seigneur Dieu, nous te prions que tu puisses aider chacun, que nous puissions être transformés et que tu puisses avoir rendez-vous avec chacun d'entre nous durant ces réunions. Seigneur, que personne ne quitte cet auditorium, ne quitte cette mission sans avoir fait d'abord la paix avec toi et d'avoir mis leur vie en ordre. Seigneur, nous te prions, aide-nous, aide chacun à consacrer notre vie, à te donner notre vie entière. Tout cela dans le nom, précieux et saint, le nom de Jésus-Christ. Amen.